L'enfer immédiatement. C'est lui qui a créé l'enfer.
Les anges savaient que Dieu avait... Bon, ils savaient que Dieu avait écrit, mais après, c'est pour
moi. Vous savez, si dans le... Oui, enfin... Ça, bon, j'en sais rien. Non, j'y étais pas, mais... la lucidité des anges, oui, pouvait leur faire penser que Dieu n'allait pas en rester là. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme dans tout péché, hein? Et en particulier le péché d'orgueil. Or, il n'y a que l'orgueil chez les anges. Il n'y a pas d'autre péché. Il n'y a pas de démanger 11 ans de la chair et des passions. Bon, dans tout péché, vous avez une espèce de griserie qui fait que vous ne voyez plus que ça. Vous comprenez? Alors, s'ils avaient été purement rationnels en disant, attendez, je fais ça, ok, non serviable, très agréable, hein, et finalement, ben, Dieu est quand même, c'est quand même le plus fort, hein, et etc., etc., il n'y a pas de distinction en lui entre essence et donc, etc. Non, dans le péché, c'est la griserie. Regardez, je sais pas, il faut pas prendre les péchés de la chair pour nous, parce que là, la chair, enfin, tout ce qui est de la chair, même la gourmandise et tout ça, non, on comprend rien, là. Faut prendre le péché de l'orgueil. Voilà. Quoi dans la chaîne d'âme, hein? Où est-ce que je... Jusqu'où n'irai-je point? Comprenez que là, à ce moment-là, vous n'êtes pas à calculer, à savoir qu'est-ce qui va m'arriver. Vous foncez là-dedans, la tête baissée. Voilà.
Mais parce que vous avez des passions. Enfin,
Non. Le péché de l'orgueil, ce n'est pas les passions. C'est la griserie de soi-même. C'est l'exagération de l'excellence de soi-même.
Oui, mais qui fait qu'on se mesure à Dieu? Or, les anges... Je ne sais pas, en se mesurant à Dieu, il savait déjà que la mesure était...
C'est exact, ça. C'est exact, mais vous supposez les anges discursifs, enfin, ayant pesé le pour et le contre. C'est, ce qui est grave, ce n'est pas le châtiment qu'ils ont eu.
Oui, c'est vrai.
Ce qui est grave, c'est qu'ils sont mesurés à Dieu. Dieu leur propose quelque chose de parfaitement juste, etc., difficile... Hein, intellectuellement, très difficile, bon. Mais, c'est ça l'important. Et ça les a grisés. Et je vous dis, le fait de dire non, on voit, heureusement que le cri de Lucifer est dans la Sainte Écriture, non serviam. C'est très clair. Hein. C'est-à-dire que tout est en ordre, mais moi je dis non. Voilà. Je dis non parce que je préfère mes lumières à celles de Dieu. C'est tout. Mais vous comprenez que c'est ça et seulement ça qui occupe l'intelligence d'un ange à la révélation de ce mystère. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de discursion chez les anges. La discursion, c'est le discours que nous faisons, nous, pour comprendre les choses. Et c'est pour ça qu'il y a de la logique. Il n'y a pas de logique chez un ange. La logique, c'est... Parce que nous avons un discours intérieur, au point de vue intellectuel. Et donc, pour passer d'une phrase à l'autre, il y a une logique. Il n'y a pas de discours. C'est ça qu'on appelle la discursion, le discours en latin, tout simplement. Hein. Et chez un ange qui voit tout d'un seul coup, il n'y a pas de discursion. Il n'a même pas besoin de logique. Il n'y a pas besoin de logique. Voilà. Oui, autre question, semble-t-il, qui vous brûle les lèvres.
Il poursuit une finalité quand même, l'ange. Nous, on y va pas, mais il savait où il allait. Voilà. S'il voit tout d'un seul coup.
Attendez, c'est Dieu qui a inventé l'enfer et pour si c'est ça votre question au sens pratique, il pouvait n'en savoir rien que Dieu a inventé l'enfer. Si Dieu ne leur avait pas donné, j'en sais rien, à la vérité, j'en sais rien. Mais il n'est pas nécessaire qu'ils aient vu l'enfer tout grand ouvert. Ils savaient certainement, et ça je suis d'accord avec vous, que hein, de Dieu on ne se moque pas, et que n'étant pas d'accord avec Dieu, mais qu'est-ce que vous voulez? Dans le péché, vous ne regardez pas l'offense à Dieu, sinon vous ne le feriez jamais. Enfin, attendez, si on était... Si on était parfaitement lucide de l'offense à Dieu qu'on fait dans le péché, on ne le ferait pas. C'est qu'on regarde autre chose. Par définition, on regarde autre chose. On regarde pour nous, mais ça c'est les péchés de notre pauvre nature mortelle, le petit plaisir passager que ça nous rapporte, hein, et on regarde l'excellence que ça nous procure.
Alors eux, il leur restait que ça. Parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à regarder d'autre. Ils n'étaient pas... Tenté par...
Non, mais je vois pas très bien votre question. C'est-à-dire que si Regardez, quand un chrétien fait un péché, il sait qu'il mérite l'enfer, etc. Il le fait quand même. Et il voit pas ça, il regarde pas ça. Il le sait. Il le sait, mais il ne le regarde pas. Et puis je vous dis, l'enfer, Dieu l'a créé après, hein, donc il n'existait pas. Hein. Bon, non, c'est, tout ça n'est pas clair. Voilà. Avançons. Derrière Saint-Michel, le cri de Saint-Michel est également très suggestif. Ces deux cris sont magnifiques, l'un et l'autre. Un qui condamne Lucifer et l'autre qui sauve Saint-Michel. Hein. Qui est comme Dieu ? Là, on voit bien que Saint-Michel était un ange plus petit que Lucifer. Très grand, sans doute, puisqu'il l'a remplacé. Hein. Mais par rapport au commandant, hein, c'était un petit lieutenant, il n'y avait pas de doute. Bon, un grand petit lieutenant, mais un lieutenant. Parce que, vous voyez, il est lui aussi affecté par cette révolte de Lucifer. Et son cri, c'est pas un cri... Il faut qu'il se démarque. Il faut qu'il se démarque. Il faut qu'il tranche. Voilà. Et comment le fait-il ? Eh bien, vous voyez, la difficulté de l'épreuve est la même. Il dit pas qu'il n'y a pas d'épreuve. Il se raccroche simplement à ceci, c'est qu'avec Dieu, hein, on ne discute pas, parce qu'il a forcément raison. Qui est comme Dieu ? Bon, voilà. Qui est comme Dieu ? Ce qui prouve, vous voyez, ça sauve Saint-Michel, mais ça condamne. Parce que ce que dit Saint-Michel, Lucifer le savait, et encore mieux, à la limite. Il savait très bien que personne n'est comme Dieu. C'est la chose que les anges voyaient bien. Ils sont beaux, ils sont grands, ils sont forts, ils sont intelligents, ils ont toutes les qualités, toutes les vertus, mais il y a une chose qu'ils voient très clairement, c'est qu'il y en a un, hein, qui est autre. Voilà, qui est autre. Voilà, et bien Saint-Michel, vous voyez, il est dans la panade. L'épreuve est très dure pour tout le monde, pour lui, mais il se raccroche à ceci. C'est que Dieu est Dieu. C'est tout. Et vous savez, dans les tentations, hein, dans les épreuves, il faut faire exactement comme ça. Sans doute, on a des tentations, nous, inférieures par rapport à ces anges, à ces beaux anges de Dieu, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Quand vous commencez à couper les cheveux en quatre dans le sens de la longueur, vous êtes mal sorti. Hein. C'est sûr. Dans les épreuves, il faut dire, mais est-ce qu'on discute avec Dieu ? Hein ? Le béaba de l'épreuve, pour tout homme, c'est se dire que Dieu est intelligent, et qu'il a toujours raison. Sinon, si vous commencez à mettre Dieu en cause, vous êtes fichu. Hein ? Vous faites trembler la terre sur laquelle vous vous trouvez. Hein ? Voilà. Qui est comme Dieu ? Qui est comme Dieu ? Ça veut dire qu'il ne comprend pas. Il comprend qu'une chose. L'épreuve, elle est très difficile. Adorer le Fils de Dieu, hein, dans une nature inférieure à la sienne, c'est une épreuve en soi très difficile. Surtout la matière. La matière doit paraître ridicule à un ange. Hein, ridicule. N'empêche que c'est Dieu qui impose ça. Et ça, les anges le voient très très bien. Et si c'est Dieu qui le demande, c'est juste. C'est tout. Voilà. Une précision, oui, bien sûr.
Parce que vous venez de dire que Lucifer s'est révolté dans la volonté, et non pas dans l'intelligence, puisqu'il avait tout compris.
Ah, sûr.
Là, vous mettez que Saint-Michel accepte sans comprendre.
Si. Ce que je veux dire, la lucidité de l'un et de l'autre est strictement la même. C'est-à-dire que les données du problème, voilà, les données du problème, voilà, voilà les données du problème, c'est idem. C'est idem. Voilà. Maintenant, il y a le petit ange, là, qui est là, hein, bon, Lucifer, etc. Il voit la même chose. Il voit la même chose. Voilà. C'est au niveau de la volonté que ça va être différent. Mais la volonté, vous comprenez, elle vient toujours d'une intelligence. Ce que va voir, et c'est bien les écrits respectifs qu'ils disent, ce que va voir Saint-Michel, c'est que dans ce dispositif du problème ainsi posé, le mystère de l'incarnation révélé à ses anges, c'est difficile, mais ce qu'il va voir, lui, ce qu'il va considérer, c'est que ça vient de Dieu, et que c'est forcément bon. Voilà. Ce que va considérer Lucifer, c'est pas que ça vient de Dieu, c'est que c'est trop difficile pour ses petits, pour sa grande intelligence supérieure. D'ailleurs, tous les anges ne passent leur temps qu'à l'imiter et qu'à boire les paroles de Lucifer. C'est tout. Ils considèrent un aspect différent des choses. Mais il y en a un qui est plus humble et l'autre qui est orgueilleux. Voilà. C'est tout. Et vous voyez, de tout ce que dit saint Thomas sur la perception de sa propre excellence, au fond, il ne reste que ça de différence entre Saint-Michel et Lucifer. Lucifer, il sait regarder lui-même. C'est tout. Tandis que Saint-Michel ne sait pas regarder lui-même. Il a regardé Dieu. C'est tout. Voilà la différence. Mais c'est exactement pareil pour nous, alors ça. Hein. C'est exactement pareil pour nous. Peut-être pas les péchés de l'inférieur, quoi, de la sensibilité, de la chair. Mais au point de vue de l'orgueil, c'est exactement ça. L'orgueil rend complètement aveugle. On finit par voir que soi-même. Alors, je ne vous donne pas de nom, mais des mégalos... Les mégalomanes orgueilleux quittent la planète. Et plus rien, qu'ils considèrent plus qu'eux-mêmes. Allez, en avant. Voilà, il revient dans certains hommes politiques, dans certains héros de leur... Enfin, regardez Napoléon. Ou Nietzsche, ou... je donne des noms du passé, mais on pourrait donner des noms du présent. Hein. Regardez le catéchisme de Napoléon. Napoléon est dans tous les bouquins d'histoire, un grand empereur, tu parles, il a fini complètement fou, hein, en faisant un catéchisme pour tous les enfants de France, où il y a un véritable culte à l'empereur, mais culte, au sens technique du terme, c'est de la folie. Il a fini fou, ça lui a monté à la tête, etc. Voilà. Et les catholiques ne voient qu'une chose, c'est qu'il a rouvert les églises. Pour y faire quoi, hein, pour s'y faire glorifier lui-même. Lisez un jour, si vous tombez dessus, le catéchisme imposé par Bonaparte à tous les Français. Vous verrez. Vous comprendrez tout de suite ce que c'est que ce type-là. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de bonapartistes inconditionnés parmi vous. Mais enfin, tant pis pour eux, si c'est le cas. Mais évidemment, hein, le catéchisme de la République, là, ça doit être en... après son couronnement là, vers la fin de sa vie, un peu avant Waterloo là, il a fait voilà, complètement mégalo. Alors, on peut pas bouger en France sans louer l'empereur, sans, etc. Ça a pas duré longtemps, Dieu merci, parce que Dieu lui a coupé l'herbe sous les pieds. Alors évidemment, il a quelques petites choses attachantes, comme son génie militaire, une certaine... voilà, mais enfin, c'est la... Enfin, bref, on va pas parler de Bonaparte. Mais il est un bon exemple, hein, de ce qu'a pu être Lucifer. Hein, ça, il n'y a pas de doute. On comprend bien que c'est le même péché. Voilà. Donc, vous voyez, Saint-Michel accepte l'épreuve sans la comprendre. Au point de vue de l'épreuve, le dispositif... Hein, c'est-à-dire l'économie de cette épreuve, et c'est la même chose pour tout le monde. Hein. Mais il va regarder la grandeur de Dieu. Et avec Dieu, on est d'abord d'accord avec lui. C'est très important pour nous, cet exemple. Si l'Écriture sainte nous a mis ça dans... alors que je vous ai dit en entrée de jeu, hein, c'était pas obligé que l'Écriture sainte nous parle des anges. On pourrait très bien ignorer tout à fait ce monde des anges et ce qui s'est passé dedans. On en sait beaucoup. Même si on aimerait en savoir encore plus. Bon, on en sait beaucoup. Et si l'Écriture sainte nous a mis ça, c'est parce que dans l'épreuve, vous savez, je ne parle pas dans la petite tentation de dernière minute qui va s'arrêter dans 3 minutes. Bon, est-ce que je vais prendre un chocolat, un marron glacé de plus? Mais j'allais dire, parce que ça, c'est... Mais je parle des grandes épreuves de la vie, hein, quand il y a des choix dans la vie, et toute vie a des choix, des etc. À ce moment-là, vous savez, sur quoi se déterminer? Faites confiance à Dieu, vous verrez après. C'est tout ce qu'on peut dire. Quelqu'un qui est dans l'épreuve, il n'y a que ça à faire. Voilà. Prenez des parents qui ont un enfant infirme ou qui meurt. Toutes sortes d'épreuves graves, etc. Que faire? Se dire que Dieu a raison. Quand on prend quelque chose au travers de la figure, nous, hein, on ne peut pas comprendre pourquoi ça nous arrive. Ben, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de dire que Dieu a raison. Et qu'il a au minimum permis ça. Et en général, il l'a fait lui-même. Alors on verra plus tard. Mais c'est tout à fait l'attitude de Saint-Michel. Sauf que Saint-Michel ne raisonne pas dans le temps. Nous, on dit, on tâchera de comprendre plus tard. Saint-Michel, il a fallu qu'il choisisse tout de suite. Hein. Tout de suite. Bon, il y a Dieu d'un côté, et puis tout ce zimbrec compliqué de l'autre. Bon, alors, ben, on choisit Dieu, puis voilà. Et quand vous en prendrez plein la tronche, à un moment donné de votre vie, ben, faites comme ça, sinon vous déraillerez. Hein. Les gens viennent nous voir souvent, nous racontant les épreuves, etc. Et toutes sortes d'épreuves. Toutes sortes d'épreuves. Ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise ? On leur dit ça, puis c'est tout. Et puis il n'y en a pas d'autre solution. Voilà, avançons. La proportion des anges qui ont suivi Saint-Michel et ceux qui ont suivi Lucifer, Lucifer a entraîné un tiers des anges. Et ça, on le sait d'après l'Apocalypse 12, 4. De sa queue, le dragon entraînait, balaya le tiers des étoiles du ciel. Voilà. Cette image de l'Apocalypse est assez... On voit qu'il ramasse, voyez. Il y a une grande queue, et on a l'impression qu'il ramasse tout ce qui traîne. Les étoiles du ciel, c'est évidemment les anges eux-mêmes, très souvent appelés des étoiles, hein, dans la Sainte Écriture. Bon, ben, il balaye, il ramasse avec sa queue un tiers des étoiles du ciel. Et ça, c'est Lucifer, c'est le dragon. Voilà, donc ben, un tiers, deux tiers. Voilà. N'empêche que la démarcation de Lucifer a pratiquement sauvé les deux tiers des anges. En soi, si vous voulez, sans cette personnalité de Saint-Michel, les anges devaient tous y passer. Parce que l'influence qu'ils ont les uns sur les autres par ce donné intellectuel est considérable. Considérable. Hiérarchie et cœur des anges. Maintenant, on laisse tomber les mauvais, on s'occupe que des bons. On reviendra aux mauvais tout à l'heure, d'ailleurs. Bon, ça, je pense que vous l'avez appris au catéchisme pour les enfants. Encore faut-il comprendre quelques petites choses. Les anges sont répartis en trois hiérarchies, comprenant chacune trois cœurs. Voilà. Ces hiérarchies et ces cœurs, c'est selon la fonction qu'ils occupent. Mais pas du tout à cause de leur nature ou grandeur. Donc, il ne faut pas croire que les grands anges sont là-haut, au point de vue des hiérarchies et des cœurs. C'est même faux. On sait où ils sont. Les grands anges, ils sont chez les archanges, et donc 8e cœur. Voilà où ils sont. Et vous allez comprendre pourquoi ils sont dans ce cœur, et non pas dans un autre. Donc, cette répartition en hiérarchie et cœur, c'est uniquement en raison des fonctions. Il y a des postiers, il y a des boulangers, il y a des plombiers, il y a des conducteurs de train, il y a des pompiers. C'est comme ça qu'ils sont répartis. Mais pas du tout en raison de leur grandeur. Pas du tout en raison de leur nature, et donc pas du tout non plus, puisque ça va ensemble, en raison de leur grâce. Voilà. Comment savons-nous ces hiérarchies? Eh bien, il faut... Elle n'est pas énumérée de façon exhaustive. Elles ne sont pas énumérées de façon exhaustive dans la Sainte Écriture. Il faut prendre 6 ou 7 passages de la Sainte Écriture et les coller ensemble. C'est Saint Grégoire qui a fait ce travail. Et on a ce texte dans le bréviaire, je crois, à la fête des anges. C'est soit Saint Michel, soit les anges gardiens. Voilà, dans le bréviaire, vous avez comment Saint Grégoire, vous avez la théologie de Saint Grégoire, comment il prend les différentes citations de l'Ancien Testament et de Saint Paul. Et puis quand les vertus sont répétées, ben il raye les vertus, hein, c'est vraiment un petit travail scolaire, et puis il arrive à ce résultat en disant, bon, voilà. Il y en a un qui aurait pu nous dire ça, c'est Saint Paul. Parce que Saint Paul, il connaissait ce monde angélique à fond, il le dit. Il faut retrouver le texte, j'ai plus la référence du texte. Je ne sais plus où Saint Paul dit « Critique tous ceux qui parlent sans arrêt des anges. » C'est le début du gnosticisme. Hein. Il est en train de fustiger. Et alors, il dit « Méfiez-vous de ceux qui passent leur temps à faire des généalogies d'anges, etc. etc. Est-ce que je le pourrais pas, moi ?» Hein ? Je le pourrais, mais il ne l'a pas fait. C'est dommage. Il peut le faire, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? L'argument qu'il donne est formidable. Ça rejoint ce que je vous disais en introduction. Hein. Il dit, moi, j'ai été envoyé pour prêcher le mystère du Christ, Jésus. Voilà. Alors les anges, tout ça, Dieu m'a révélé, je connais bien, je pourrais vous en raconter à perte de vue, dit saint Paul, sur les anges, mais c'est pas mon truc. Mon truc, hein, c'est qu'il faut prêcher le Christ à tout homme, et c'est par là qu'ils sont sauvés. Alors méfiez-vous de tous ces gens qui vous parlent que des anges. C'est formidable, hein. Seulement, au premier siècle, c'était un peu dangereux à cause du gnosticisme. S'il nous avait fait un petit traité sur les anges, on en saurait plus, ça c'est vrai. Parce qu'il, hein, il dit qu'il peut en parler à perte de vue. Alors, j'ai pas l'expression, mais retrouvez-moi ce texte, là, parce que je le cite souvent, et puis je l'ai perdu de vue, au point de vue. Voilà. Donc, répartis en hiérarchie et en cœur selon leur fonction, et non pas selon leur nature ou grandeur. Ainsi, il n'est pas surprenant que les plus beaux des anges soient dans le huitième cœur, et nous allons voir pourquoi. La première hiérarchie s'occupe de l'adoration et du culte exclusif de Dieu. Elle comporte les séraphins, les chérubins et les trônes. Voilà, des anges qui ne font que louer Dieu, c'est ceux qui sont décrits dans le livre d'Isaïe, Sanctus, 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 c'est eux qui, sans arrêt, assurent la louange divine. La deuxième hiérarchie s'occupe du gouvernement du monde. Elle comporte les dominations, les vertus et les puissances. Le Seigneur, il faudrait citer la moitié de l'Écriture sainte, mais enfin, quand le Seigneur parle de la fin du monde, eh ben, il dit que les puissances des cieux se fâchent et sont ébranlées. Alors les étoiles du ciel tombent une à une du ciel. J'ai souvent posé la question à des scientifiques, et en particulier des astrophysiciens, comment ça tient ce monde en l'air? Ça vous paraît bizarre comme question? Mais ils sont un peu incapables de répondre. Alors, c'était pas tout, moi, mais eux non plus. Hein. Ils en savent peut-être plus, mais ils ne répondent pas à la question quand même. Bon, vous savez que quand on lance un satellite, eh ben, il faut qu'il ait une vitesse très précise, selon la distance très précise qu'il a. Et puis, s'il y a une toute petite déformation, ben, ça se casse la figure. Soit il va trop vite et il fiche le camp vers le soleil, soit il va pas assez vite et puis il retombe sur la Terre. Et puis, ça arrive, hein. Ça arrive, des satellites qui dégringolent. C'est pareil pour chacune des planètes. D'autant plus que ce monde est sans arrêt en mouvement, hein, puisqu'il est expansif. Et le monde s'accroît. Bref, pour que tout ça arrive à ne pas nous tomber sur la figure, hein, eh ben, il y a certainement un auto-réglage du monde par Dieu. Et ça, c'est la hiérarchie, c'est la deuxième hiérarchie. Ça fera peut-être rigoler les scientifiques, je m'en balance, la foi c'est bien plus sûr, mais c'est le rôle assigné par Dieu à cette... voilà. Le monde devrait se casser la figure. C'est un équilibre incroyablement instable. Incroyablement instable. Ben, il tient debout. Jusqu'à ce que Dieu décide qu'il se casse la figure. Bon. Oui. Oui, ça c'est sûr.
Mais on n'en a pas parlé du désordre de là-haut. Des étoiles et tout, il n'y en a pas. Tout marche bien.
Ah oui, on ne dit pas que le péché originel ait perturbé les étoiles. Non, c'est pas dit. Mais comment?
Il a perturbé la nature physique, le péché originel.
Ah oui, la création toute entière est dans les gémissements de l'enfantement en attendant la génération des fils de Dieu, etc. Ah oui, c'est clair. Regardez, la sauvagerie de la nature n'est pas... La nature est sauvage. Elle l'était beaucoup moins... Ah non. Non, 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 non. Imaginez qu'au paradis terrestre, Adam et Ève n'avaient pas de fusil de chasse et les animaux ne lui faisaient rien. Les tigres et les panthères et tout ça, c'était des petits minés de... Hein? Enfin, ils dominaient tout ça. Ça, c'est sûr qu'il y a... Et il le dominait avec quoi? Il dominait parce que c'était des bêtes dominables, c'était pas des bêtes féroces. Voilà, et puis c'est comme ça que ça aurait dû continuer. Il y avait certainement, mais je suis d'accord tout à fait, là, il y avait certainement un équilibre qui reviendra d'ailleurs, hein, parce que le loup habitera avec l'agneau, etc. Bon, si cette terre ne s'arrête pas, cet ordre de la création reviendra. Bon, mais ça c'est tout à fait aléatoire. Hein. Bon, d'accord, donc on y va... mollo là-dessus, hein. Mais vous imaginez pas que les scorpions, que les serpents, que les... Il y a quand même des drôles de bestioles, hein, sur la Terre.
Ah oui, mais pour moi...
Il y a quand même de drôles de bestioles.
Adam dominait complètement.
Oui, mais comment il dominait?
Une bête qui est dominée, elle... je sais pas, c'est comme un dompteur, bon, avec exercice, etc. Mais la domination situation était telle que les choses étaient rangées.
Ce qui ne suppose que le tigre était toujours aussi prédateur que maintenant.
Oui, moi je pense qu'ils avaient leur nature, enfin je pense.
Oui, non, mais vous avez le droit de penser, hein, madame, vous avez le droit de penser.
Mais moi, je voyais simplement le désordre immense que ça crée dans l'homme, et dans lequel ne domine plus rien, même à l'extérieur.
Le désordre introduit par le péché de l'homme a introduit un désordre dans la nature elle-même.
Physique.
Physique, oui, absolument. Mais ça, Saint Paul le dit, hein, la création tout entière est dans les douleurs de l'enfantement. La création tout entière, c'est pas l'homme seulement. Hein. En attendant, la glorieuse, je ne sais plus quel mot, manifestation des enfants de Dieu. Hein. Voilà. Et si l'homme était le roi de la création et qu'il dominait parfaitement toute cette création, alors c'était le cas, parce que ça c'est bien raconté dans la Sainte Écriture, lui venant à tomber, il introduit un désordre partout, comme un roi qui tombe, hein, il introduit le désordre dans toute sa royauté, dans tout son royaume. Donc il y a un désordre. Le désordre est venu par l'homme, mais il est bienvenu. Hein. Alors la question, est-ce que c'est allé jusqu'aux planètes J'en sais rien. Bon, voilà. Avançons. Troisième hiérarchie, beaucoup plus intéressante pour nous, elle s'occupe des hommes, et en particulier, et si je puis dire surtout, des œuvres de Dieu pour les hommes. Or, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, enfin ce que je vous disais que je vous dirais, et nous y voici, les plus grandes œuvres de Dieu ont été pour les hommes. Ce que Dieu a fait de plus grand, c'est ce qu'il a fait pour les hommes. C'est plus grand que la création. C'est plus grand que ce qu'il a fait pour les anges. Hein? Les grandes œuvres que Dieu a faites, c'est le mystère de l'incarnation. Je ne parle pas de lui, la Trinité ne l'a pas faite. Sa vie intime, bon, tout cela, il ne l'a pas fait. Il est, bon. Mais ce qu'il a fait à l'extérieur de lui-même, c'est l'incarnation et la rédemption. Eh bien, pour gérer les plus grandes œuvres de Dieu, il y a mis certainement les plus beaux de ses anges. D'où, chaque fois qu'il est question de ces grands anges, eh bien, c'est là qu'ils sont pris. C'est dans le... Il y a que, ça je vous répondrai pas, c'est les principautés, je sais pas très bien ce qu'elles fabriquent, parce que les principautés, c'est quand même le premier cœur de ces... Je sais pas ce qu'ils gèrent, j'en sais rien. Les anges, on voit bien qu'ils gèrent les hommes, les uns après les autres. Vous avez une... Les sociétés pour les principautés, oui. Mais alors, c'est pas bête du
les
tout.
Nations, quoi,
les nations, oui. Les communautés... Voilà, gouvernement, société, c'est... Mais toujours pour les hommes, oui, c'est vrai. Les anges, c'est les hommes individuellement, un par un. Et les archanges, c'est certainement là les plus grands. Hein. On connaît que trois archanges, et ils sont... L'un a géré le mystère de l'incarnation, l'autre est le chef de tous les anges, c'est celui qui a évité la révolte massive, Saint-Michel. Raphaël, il est proche des anges, lui. Bon, on dit bien l'archange, mais enfin, il a géré l'histoire de Tobie, hein, plus que des grands mystères de Dieu. Et puis tout ça est très mystérieux. Saint Paul n'a pas voulu nous dire tout, alors...
Mais la question de louer Dieu n'est pas plus grande que celle de s'occuper des hommes.
Si, en soi, mais, ces anges, appelés les archanges, et ceux qui y gèrent des choses beaucoup plus grandes que la louange de Dieu, puisqu'ils gèrent le mystère de l'incarnation. Comprenez, ils ne gèrent pas que des hommes, ils gèrent les mystères de Dieu. Et ça, c'est beaucoup plus grand que la louange de Dieu. Vous comprenez que l'archange Gabriel, qui a été chargé d'annoncer à la mère du Sauveur l'incarnation du Fils de Dieu, il a quand même un rôle beaucoup plus grand que de répéter Sanctus avec tous les chérubins et les séraphins. C'est évident. Donc, si vous voulez, la louange de Dieu en soi, c'est plus grande que le service des hommes, mais parmi ceux qui gèrent le service des hommes, étant donné que les plus grandes œuvres de Dieu, l'incarnation et la rédemption, ont été faites pour les hommes, ils ont géré non seulement les hommes, mais ces mystères de Dieu. Et en cela, ils sont beaucoup plus grands. Vous me suivez ? Voilà. Et dernier point, influence des anges. Sur nous, Question importante, évidemment. Hein. Les anges, bons et mauvais, ont sur nous une grande influence, mais qui est toujours par le côté sensible de notre être. Si vous voulez, entre deux anges, il y a communication au niveau intellectuel. Mais entre un ange, bon ou mauvais, et un homme, il n'y a pas de communication purement intellectuelle. Directe. Ça n'existe pas. Bon. Alors, quelle est l'influence des anges? Eh bien, entièrement sur notre partie sensible. Que ce soit des bons ou des mauvais. Autrement dit, qu'ils nous fassent du bien ou qu'ils nous fassent du mal. C'est sur la partie sensible. Il y a vraiment un mystère de nos âmes que les plus mauvais des anges, hein, les plus terribles des démons ne peuvent pas savoir, c'est où nous en sommes fondamentalement. Il y a un mystère. Ils ne savent pas, hein, un ange ne sait pas si vous êtes en état de grâce ou pas. Il vous voit faire un gros péché mortel, bon, il peut se demander hein, si vous êtes en état de grâce, mais il ne sait pas du tout, hein, ne serait-ce qu'une minute après, si vous n'êtes pas revenu à Dieu par un acte de charité parfaite, il n'en sait rien. Il n'a pas accès à ça directement. Il n'a pas accès. Voilà, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il lâchera jamais le morceau. Le pire des pécheurs, il peut craindre qu'il soit remis avec Dieu, et le plus grand des saints, il peut espérer hein, que finalement, il est péché. Il n'en sait rien de ça. Il y a un mystère qui l'excite d'ailleurs, qui excite sa jalousie. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, il peut, et là ils ont une grande influence, hein, travailler sur tout ce qui est sensible. Tout ce qui est sensible. Et à cet égard, si vous voulez, l'influence des anges est assez voisine, sur nous, de celle qu'ont les autres hommes. Car les autres hommes peuvent nous influencer sur notre partie sensible. Voilà, la télévision nous influence sur notre partie sensible. Mais vous comprenez qu'à force de matraquer l'imagination, les sens, etc., vous avez une influence sur l'intelligence qui est considérable. Et par l'intelligence, vous avez une influence considérable sur la volonté. Mais, voyez, la porte, la clé, elle est toujours d'ordre sensible. Voilà. Et voilà pourquoi, quelle que soit l'agitation sensible que les bons ou les mauvais anges peuvent faire sur nous, à ceci près que comme les bons travaillent comme Dieu, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans la paix et dans le calme, tandis que les démons travaillent dans l'agitation et l'excitation. Ça, c'est de toute évidence. Voilà. Et c'est une des manières de discerner les esprits. Alors ça, il faut se le mettre une bonne fois dans la tête. Hein. Les gens qui croient qu'on peut vouloir à leur place ou leur influer directement des pensées, etc., tout ça, c'est du pipeau. Ça n'existe pas. C'est faux. C'est faux. L'influence des hommes comme des anges sur nous et de l'ordre sensible. Mais alors attention, hein, les anges sont beaucoup plus malins que les hommes. La moindre faiblesse sensible que nous avons, ils l'aperçoivent et ils peuvent l'utiliser. La moindre fatigue que nous allons avoir, que nous n'avons pas encore, hein, ils savent très bien qu'étant fatigués, on sera plus vulnérable. Et ils le savent à l'avance. Et tout. Voilà. Donc là, l'influence sensible peut être considérable, mais jamais déterminante. Voilà. Et ce qui fait également qu'on excite énormément la jalousie des anges. On distingue trois degrés. Alors ça, c'est important aussi. Hein. Aucune action directe sur notre volonté ou sur notre intelligence. Ça, c'est le propre de Dieu. Alors là, Dieu peut faire ça directement. Il peut vous envoyer une pensée qui n'est pas passée par le sensible. Il peut vous faire vouloir. Vous ne voulez pas, et brusquement, vous voulez. Ça, c'est l'effet de Dieu. Aucun ange ne peut faire ça, ni aucun homme. Voilà. Et ça, il faut se le persuader, hein, une bonne fois pour toutes. Hein. Il n'y a que Dieu qui a la clé de notre âme. Il accomplit en nous le vouloir et le faire. Et en plus, il peut rentrer sans effraction par le fait qu'il a la clé. Il a la clé. Il rentre sans effraction. Quand vous voulez, c'est Dieu qui vous a fait vouloir, si c'est du bien. Hein. Et vous voulez, donc, vous êtes libre. Vous voyez, la puissance de Dieu, elle est totale. Il vous fait vouloir, et vous restez libre. Un autre pourrait pas faire ça. On peut toujours vous mettre un revolver sous la nuque, hein, en disant « tu vas marcher ». Mais vous voulez pas, hein, marcher. N'empêche que vous finissez par marcher. Ce qui fait que vous voulez marcher, mais vous êtes contraint. Bon. Dieu n'a pas besoin de ça. Il vous fait vouloir et vous trouvez ça très très bien. Et c'est comme ça. Et vous avancez et vous êtes parfaitement libre et heureux d'être libre. Voilà. Alors, l'influence des anges... alors ça c'est très important, hein. Quand est-ce qu'on peut tomber dans les manifestations extravagantes du démon? Quand on lui a donné des gages. Je l'ai dit en une ligne, mais c'est un peu rapide, hein. Mais ça faut le dire et le répéter, surtout dans notre monde où les médiums, les cartomanciennes, le spiritisme, la magie noire et tout ça se déchaînent, hein. Les astrologues et les diseuses de bonne aventure et le tarot et j'en passe, hein, 36-15 machin. Les hommes ont sans arrêt accès à ça. En soi, celui qui ne fait pas de bêtises dans ce domaine ne risque rien. Et la raison est très forte et très simple. Le démon a été vaincu par notre Seigneur Jésus-Christ. Hein, le prince de ce monde, hein, n'a rien en moi, hein, et il va être jeté dehors. Il a donc été jeté dehors. C'est-à-dire que les hommes qui ne recourront pas de nouveau au démon pour lui redonner un pouvoir qu'il a perdu, eh bien ce pouvoir il ne l'a plus parce qu'il l'a perdu. Mais ça c'est fondamental à la fois, hein. Ce qui fait que si quelqu'un ne fait pas de bêtises particulières, c'est-à-dire dans ce domaine, hein, je ne parle pas des péchés en général, mais si quelqu'un n'a pas recours à ses moyens, j'allais dire comme les païens d'avant là, eh bien, par sa foi, par son baptême, il ne peut pas avoir ce genre de manifestation. Et les gens qui n'ont pas fait de bêtises de cette sorte, eh bien, ils ne sont pas inquiétés, et s'ils croient qu'ils le sont, ils se trompent. C'est de la psychologie ou c'est un petit grain, c'est tout. C'est un petit grain, et ça existe, malheureusement. La question qu'on doit poser, et là je n'invente rien, hein, c'est vraiment ce que dit le rituel. Avant de pratiquer des exorcismes ou j'en sais rien, le rituel dit, hein, le prêtre, enfin celui qui s'en occupe, doit faire tout pour expliquer ça psychologiquement. On se moque quelquefois des modernistes, mais là-dessus... alors évidemment il ne croit pas au démon, alors il ne croit pas à son influence, et alors là c'est la foi qui est attaquée directement. Mais la démarche pastorale consiste à expliquer ça d'une autre manière. Et la première question à poser, monsieur, madame, est-ce que vous avez fait tourner des tables, est-ce que vous avez consulté des médiums, est-ce que vous avez fait de la magie noire, est-ce que vous avez fait du spiritisme? Si oui, alors là attention, il peut y avoir quelque chose. Mais vous comprenez qu'on ne peut pas vous croiser dans la rue, vous coller un sort, vous n'avez rien fait là, pan, et tout d'un coup... ça y est, vous avez un sort. Ça pourrait nous arriver à chacun d'entre nous, non? Voilà. Quelqu'un me croise dans la rue, même pas beaucoup, hein, et m'envoie un sort, là, et puis vous allez me retrouver à moitié possédé de je sais pas quel démon. Mais attendez, on est où, là?
Bon, on m'a parlé d'une famille où le père est franc-maçon, et la mère raconte qu'il a jeté un sort sur... Ça peut pas être vrai, ça, alors.
Alors, lui... Qu'il ait toutes sortes d'inquiétudes, etc., normal. Il a fait ce qu'il fallait. Voilà. Qu'il dérange toute sa famille avec ça, évidemment. Mais que, par son influence et les aiguilles et je sais pas quoi et tout le reste, tout le Bataclan, hein, il puisse influencer les autres au point qu'ils aient infestation, obsession ou possession, non. Non. C'est contraire à la révélation même, ça. Si quelqu'un ne redonne pas des gages au démon, le démon a perdu. Alors attention, il s'agit, hein, de gens... alors c'est valable aussi pour les païens, dans la mesure où ils ne font pas ce genre de péché. Mais vous comprenez que rien ne les retient de les faire. Au contraire. C'est valable pour les païens aussi. Le mystère de la croix a évacué, enfin a brisé la puissance du démon sur cette terre, qui était totale. Puisqu'on l'appelait le prince de ce monde. Elle a été brisée, cette puissance. Et même les païens en profitent. Mais vous comprenez qu'ils n'ont pas les raisons, c'est-à-dire la foi, principalement, pour ne pas repratiquer ce que les anciens pratiquaient
mais à tire-larigot et sans arrêt. Ah, évidemment. Mais même les païens, si ils vivent, j'allais dire honnêtement, à cet égard, c'est-à-dire ne consultent pas tous ces artificiers du diable, bon, eh bien, eux-mêmes ne risquent pas d'être inquiétés, même s'ils ne sont pas baptisés et s'ils sont païens. Voilà. Par contre, regardez, ces gens qui s'amusent à faire tourner des tables, mais des jeunes de 15 ans. Enfin, tout de même, j'ai entendu ça des dizaines et des dizaines de fois. Hein. Ils se réunissent, là, entre jeunes. J'ai un truc qui va t'intéresser, tu vas voir, on fait tourner des tables. Ah bon, tu fais tourner des tables. Le type qui a 15, 16 ans, bon, bah, évidemment, il est un peu malléable, un peu influençable et tout ça. Mais tout de même, s'il a la foi qu'il est baptisé, il doit quand même savoir qu'une table, ça ne tourne pas tout seul. Je vous le dis, moi. Par deux, trois incantations, et puis ensuite on fait de la divination, hein, on découpe des lettres, on les met sur la table, il y a un verre, et on invoque les esprits, tiens, ça commence fort là. Et puis il y a le verre qui se déplace, il se met sur chacune des lettres. Moi je me suis fait raconter ça plusieurs fois pour savoir comment ça se passait. Ils disent à peu près tous la même chose. Et puis à force de vous ajouter les lettres, il y en a un qui note. Non mais attendez, le gars de 16 ans, vous comprenez, qui accepte d'assister à une séance comme ça, faut pas s'imaginer. Alors évidemment, lui, après, s'il a le démon aux trousses, hein, il l'a pas volé. Et ils l'ont. Et ils l'ont, hein. Voilà. Mais sinon, c'est de la mauvaise psychologie. Voilà. C'est de la mauvaise psychologie. C'est... à la limite, si vous voulez, dans le genre sort, on peut affecter l'entourage de quelqu'un. La matière se laisse faire, mais pas la personne elle-même. Voilà, bah, regardez les plus grands saints, les démons s'en donnaient à cœur joie. Hein. Le curé d'Ars, il ne pouvait pas fermer les de la nuit, parce que y a toujours une boule de bois qui déboulait dans son escalier. Son lit prenait feu de temps en temps. Enfin, c'est... Bon, comprenez, il n'avait pas donné de gage. Hein. En lui, le démon n'avait rien. Hein. Trois comme toi et mon royaume s'écroule. Hein. Saint-Antoine du désert, pareil. Ouais, c'était le tintamarre continuel. Bon. Mais ils n'avaient rien. C'est précisément parce qu'ils n'avaient rien. Voilà.
À l'inverse, l'accumulation des péchés...
L'accumulation des péchés ne fait jamais un péché d'une autre espèce. Donc,
Il ne fait pas rentrer le diable...
Non, non, non. Tous les péchés... sauf des péchés qui ont recours aux démons. La divination, on n'a pas à savoir l'avenir. Et un homme ne peut pas savoir l'avenir. Les démons, ils en savent. Pourquoi ils savent un peu l'avenir? Pas les futuribles. Hein. Ce que vous ferez avec votre liberté dans 5 ans, ils ne peuvent pas le savoir. Parce que ça, c'est encore le mystère de nos âmes, auxquelles ils n'ont pas accès. Mais ils sont bien plus malins que nous. Parce que dans la moindre cause, ils voient tous les développements. Ils sont très lucides. Donc dès que vous avez un symptôme, j'allais dire infime, au point de vue sensibilité, ils voient très bien ce que ça va donner. Et donc, par rapport à la science d'un homme normal, ils en savent 20 fois plus, ou 30 fois plus, ou 100 fois plus. De là à ce qu'ils devinent les choses, voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas normal qu'on ait recours à des médiums, à des gens qui soit sont des charlatans pour vous soutirer de l'argent, soit vraiment ont signé eux-mêmes avec le diable. Et c'est évident qu'il y en a qui... Regardez, les grandes chansons de rock'n'roll, de l'aveu des auteurs, ont été faites sous influence du diable. Ils l'ont dit, je pense, au groupe Led Zeppelin, la Stairway to Heaven, cette chanson qui s'est vendue à des millions et des millions d'exemplaires, des centaines de millions, et qui est musicalement très belle. Eh bien, les auteurs, elle est très belle, point de vue sonorité, rythme... Non, attendez. Et quand le démon... La partie sensible, le démon, vous savez, il s'est tiré les ficelles. Hein. Il s'est tiré les ficelles. Bon, eh bien, ils ont dit qu'ils l'avaient fait, comme les Beatles, un certain nombre de chansons, ils ont bien dit qu'ils les avaient fait sous transmédiumique. Et je veux dire, la beauté des harmonies et des machins vient du diable. Et d'ailleurs, ce qui explique le nombre de ventes, tout simplement. Bon, eh bien, vous comprenez qu'à partir du moment où vous donnez des gages comme ça, alors là, on largue les amarres. Hein. La protection du mystère de la rédemption... par rapport au diable et sa victoire, la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur le diable, ben pour celui-là, elle n'existe plus. Il a rechangé de camp, vous comprenez. Alors là, tout est possible. Tout est possible. Et ça vient très vite. J'ai rarement vu quelqu'un Bon, les petits jeunes gens qui avaient fait tourner 2-3 fois des tables, s'ils sont vite allés se confesser puis qu'ils reviennent, généralement, ça va. Mais il n'y a pas trop de conséquences. Voilà. 3 degrés, rapidement, infestation, intervention ponctuelle par mauvaise image, mauvaise sensation, etc. Qu'on les excite au péché. Mais c'est ponctuel, ça arrive comme ça, de temps en temps. Voilà. Deuxièmement, obsession. C'est les interventions, mais de façon habituelle. L'obsession est à l'infestation ce que l'habitus est à l'acte. Tout simplement. Donc c'est répété, hein, c'est installé, mais c'est la même nature que la précédente, que l'infestation. Et puis la possession, alors, la possession, c'est vraiment le diable qui tire les ficelles. C'est-à-dire qu'il a une telle influence sensible que c'est lui qui commande les organes, les muscles et tout ça. L'âme est mise de côté. Il prend les commandes de l'appareil, si je puis dire. Mais voyez, toujours son influence est sensible. D'où les exorcismes. Alors c'est dans ce seul cas qu'on fait des exorcismes. On ne fait pas d'exorcisme pour infestation. On ne fait pas d'exorcisme pour obsession.
C'est... On fait quoi ?
On fait des prières, on se confesse. Surtout, on coupe avec la source. Et ça suffit. Et ça suffit. Hein. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, moi, par exemple, les gens qui ont fait tourner 2-3 fois les tables, ben, ils ont des petites infestations, ils ont des obsessions, et ça revient, etc. Faut pas les exorciser. Faut pas. Il faut qu'ils se sanctifient, qu'ils récitent leur chapelet tous les jours, etc., etc., etc. Puis petit à petit, ça, bon, ils se remettent dans le bon camp et ça repart. Par contre, à partir du moment où le démon a pris possession, là, il n'y a plus que l'exorcisme. L'exorcisme est le grand exorcisme. Parce que là, alors tout ça explique les paroles que prononce un possédé. Ben c'est pas lui, c'est pas lui qui dit ça. C'est pas lui, c'est l'organe de sa voix qui est utilisé. La puissance de ses muscles, elle vient d'où ? Elle vient de ce que c'est plus une volonté humaine qui dirige tout ça, hein, mais un démon ou plusieurs d'ailleurs. Soit dit en passant, si on avait une volonté très forte, on serait 10 fois plus costaud. C'est pas compliqué. C'est pas une question de muscles, notre force. Soit dit en passant, mais c'est parce qu'on n'a jamais la volonté de les faire marcher jusqu'au bout, et sinon on serait bien plus fort, puisqu'il faut à peu près 7-8 hommes pour arriver à en maintenir un qui est en train d'être exorcisé. Ça veut dire que quand le démon tire les ficelles, eh ben, on est 6 ou 8 fois plus fort qu'à l'état normal, etc. Donc on voit la puissance qu'il a sur la...